Bienvenue sur Micro-ondes 94, l'émission des syndicats de la CNT du Val-de-Marne.
Le gouvernement a le devoir de maintenir la paix publique et de protéger tous les citoyens sans exception contre les excès et la subversion.
Les provocations de quelques agitateurs professionnels.
Si les SRS n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu d'émeute. Ils seraient partis ce matin au petit jour manger leur café au lait.
Grandes idées n'ont pas en vain combattu et les péris contre les richards et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris. Nous lancerons la vengeance puissante et nous serons à tout jamais victorieux. Aux frères, nos armes pour notre lutte.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'émission Micro-ondes aujourd'hui qui est tenue par le syndicat des travailleuses et travailleurs de l'éducation du Val-de-Marne. Avec moi, j'ai Pierre et Antonio. Donc vas-y Pierre, présente-toi.
Bon, Pierre, je suis professeur de mécanique moto dans un lycée professionnel du Val-de-Marne.
Antonio, bonjour à tous. Donc moi, je suis enseignant dans le lycée professionnel tertiaire dans le 94.
Et moi, Alban, je suis enseignant spécialisé au RASED, c'est-à-dire au réseau d'aide spécialisé aux enfants en difficulté dans le Val-de-Marne. Et je suis spécialisé en aide relationnelle. Donc voilà, donc aujourd'hui, le titre de cette émission, c'est « L'école publique, la dégrader pour mieux sélectionner ». Nous allons voir donc plusieurs mécanismes qui sont mis en place au fur et à mesure de ces 20 dernières années pour détruire l'éducation nationale. Et l'idée, c'est vraiment de montrer en quoi cette destruction est intentionnel. Je passe donc la parole à Antonio qui va nous faire un historique de ces réformes.
Oui, je vais commencer par présenter un petit peu le lycée professionnel et puis un petit peu les réformes successives. C'est vrai que le lycée professionnel, quand on n'envoie pas ses enfants dans ce type d'établissement, on ne connaît pas forcément les mécanismes, les modes de fonctionnement. Donc ça paraissait intéressant de revenir un petit peu sur l'historique. Donc les lycées pro, au départ, ça appelait les LEP, lycées d'enseignement professionnel. Est-ce que vous avez une petite idée de l'année où ça a été créé?
Petit pas quiz. Du tout. Les années 50
pas si loin que ça quand même. Donc 1977. Alors c'est vrai que là, au départ, on avait deux diplômes qui étaient préparés au sein du lycée pro. C'était donc le CAP, hein, que tout le monde connaît, certificat d'aptitude professionnelle. Et puis le BEP qui a fait son apparition dans un deuxième temps, le brevet d'enseignement professionnel. Alors le lycée d'enseignement pro parfois cohabitait avec le lycée général ou le lycée technique. Donc dans ces cas-là, on parlait et on parle encore aujourd'hui de lycée polyvalent. Pour ceux qui connaissent pas, donc quand on a un lycée polyvalent, il arrive qu'on ait à l'intérieur donc ce qu'on appelle une SEP, donc une section d'enseignement professionnel. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un diagnostic qui s'est un petit peu imposé progressivement, c'est que les décideurs, on va dire, voilà, ils se sont rendus compte que le niveau de formation des élèves n'était pas en fait très élevé, puisqu'ils ressortaient du lycée pro, du lycée d'enseignement pro, soit avec un CAP, soit avec un BEP, mais qui ne permet pas évidemment d'aller vers une poursuite d'études, et qui évidemment qui compliquait aussi l'insertion au niveau professionnel. Donc cette faible insertion qui a été remarquée, petit à petit, il y a un projet qui s'est amorcé, qui est celui de la création du bac pro. Donc pareil, je reviens avec mon petit quiz. Est-ce que vous avez une petite idée de à quelle date le bac professionnel a été créé ?
Les années 80 ?
Ouais, tout à fait. Et plus précisément ?
Allez, 87.
Un petit peu moins, mais t'es pas loin. En fait, on est en 85-86. Donc, c'est Chevènement qui est encore ministre de l'Éducation nationale. Et donc, il propose effectivement la mise en place de ce bac pro. Donc, évidemment, donc ça allonge la durée de formation de 2 années pour les élèves de lycée pro. Donc, c'est quand même pas rien. Et puis, surtout, ça ouvre vers la poursuite d'études. Donc, leur permettre d'aller vers les BTS, vers l'université, enfin, voilà, la poursuite d'études en général. Donc voilà, donc on a donc les enseignants de lycée pro, ils ont la particularité d'être titulaires d'un concours qui est le PLP, la certification PLP, donc qui les place sur la même grille que les certifiés de lycée général. Alors, il y a une autre particularité aussi au niveau du profil des profs de lycée pro, je pense que c'est important d'en parler, c'est qu'il y a beaucoup de profs, d'enseignants qui viennent du monde du travail, du privé, qui ont acquis une certaine connaissance dans un domaine technique, dans un domaine professionnel, et qui viennent justement, qui ont envie de pédagogie, qui ont envie de partager ça avec leurs élèves. Donc du coup, ça donne aussi un contexte professionnel. On a pas mal de personnes qui parfois sont embauchées non pas à partir d'un concours, mais qui peuvent être embauchées à partir d'un contrat de type contractuel. Alors, on a eu pendant longtemps des maîtres auxiliaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Actuellement, on parle de contractuels, mais longtemps, c'était les maîtres auxiliaires qui étaient... Donc, c'était comme ça qu'on embauchait donc les gens qui n'étaient pas titulaires de concours.
Il y a une différence entre auxiliaire et contractuel ?
La différence, on va dire que c'est surtout que le statut de maître aux, c'est maître auxiliaire est un peu plus protecteur quand même. Voilà. Moi, dans mon histoire personnelle, dans mon parcours, j'ai jamais vu de maître auxiliaire se retrouver au chômage. C'est-à-dire que je les ai toujours vus être repris, retrouver un poste d'année en année. Et puis après, évidemment, avec le temps, il y en a énormément qui se sont titularisés. Contrairement à des collègues contractuels, j'en ai vu qui parfois se retrouvaient en fin d'année sans poste. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer. Alors, petite parenthèse, fin des années 90, on a un gros mouvement de lutte d'un collectif de maîtres auxiliaires, donc qui était très très actif au niveau de l'Académie de Créteil, mais pas seulement. Bon, il y a eu une lutte au niveau de la France entière. Donc il y a eu des manifs, il y a eu des occupations d'écoles, il y a eu aussi des concours qui ont été empêchés, notamment en 97. Et donc ça a permis donc ce mouvement des collectifs de Metrox, qui à un moment donné ont été aussi appuyés par des syndicats. Ça a permis de faire en sorte que ces revendications aient été entendues et que beaucoup de maîtres auxiliaires qui ont pu être titularisés grâce à ça. Alors bien sûr, ça s'est fait sous forme de concours internes qui ont été un petit peu adaptés, on va dire, mais ça a quand même eu une incidence positive. Alors l'autre aspect, c'est qu'effectivement aujourd'hui, le fait d'avoir des professeurs embauchés en tant que contractuels, ça change aussi un petit peu la donne lorsqu'on est en situation de revendication, de lutte sociale. forcément sur le terrain, parce que c'est pas la même chose d'être titulaire et puis de, voilà, de se lancer dans une grève ou tout type de mouvement que lorsqu'on est contractuel et qu'on est soumis au bon vouloir de l'administration et de sa direction pour la reconduction de son poste. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément important et qui change aussi beaucoup la donne par rapport à ce qu'on peut voir en lycée général dès qu'on aborde un peu la question des luttes sociales. Un autre aspect important, lycée pro, qu'il faut souligner, c'est les stages. Alors qu'on l'appelle maintenant période de formation au lycée en milieu professionnel. Donc les élèves effectuent donc des temps de formation en entreprise, hein, qui sont non rémunérés, qui sont il y a des gratifications possibles, mais le principe c'est que ce sont des périodes qu'ils effectuent gratuitement et qui sont obligatoires et qui sont prises en compte pour l'examen, pour donc que ce soit le CAP, le BEP, enfin qui a disparu maintenant, ou le bac pro,
ou le BTS,
et le BTS dont tu parleras, je pense, après. Ouais. Alors là, il y a cette question-là est importante parce que ça fait aussi rentrer un concept qui est le concept de contrôle en cours de formation. Donc, au départ, les élèves étaient évalués en stage et puis ces évaluations rentraient en compte pour l'évaluation, pour l'obtention de leur examen. Donc ça aussi, c'est un élément qui est très important parce qu'on j'en parlerai un peu plus tard. C'est ce qu'on appelle ces contrôles en cours de formation, ces CCF, pour utiliser le sigle, eh bien, vont être élargis et vont être élargis à beaucoup d'autres matières. Et puis, petit à petit, arriveront sur les lycées généraux. On a en 2000 une étape aussi qui est aussi importante, puisqu'on a l'apparition des lycées des métiers. Donc, lycée des métiers, vous vous rappelez, qui était non pas le ministre de l'Éducation, mais le ministre délégué à l'enseignement professionnel. Ça commence par un M. M et
Mélenchon.
Bravo. Donc on est donc on a Monsieur Mélenchon qui est en fait c'est sous sa tutelle qui a été mise en place cette mini réforme, on va dire. Alors le lycée des métiers, là aussi ça ne concerne qu'une partie des lycées professionnels en France. Déjà, ce sont les établissements qui en font la candidature, puisque c'est un label. C'est un label qui dure 5 ans. Et c'est un label qui, on va dire, permet de, on va dire, donner une visibilité à l'établissement. En tout cas, qui est censé agir comme tel, qui reflète aussi une certaine réflexion qui a eu dans l'établissement autour d'une homogénéité au niveau des formations qui sont proposées. Mais aussi, ça apporte plein d'autres choses, comme des petites idées dont on entend encore parler aujourd'hui et qui sont d'autant plus d'actualité, qui est la mixité des publics. C'est-à-dire que dans le lycée des métiers, petit à petit, on commence à amener l'idée que on pourrait mélanger des élèves qui viennent de ce troisième, on pourrait mélanger, pourquoi pas, des adultes qui reprennent une formation, et pourquoi pas, des apprentis. Voilà, donc ça, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, notamment Pierre reviendra dessus avec la question de la réforme actuelle. Donc on voit que tout ce qui se passe actuellement, les réformes ont été apportées par les réformes et les mini-réformes successives. Voilà, donc le lycée des métiers, alors il y a des établissements qui ont sauté dedans à pieds joints. Je pense qu'aujourd'hui, sur le territoire, on en a à peu près 1000 lycées des métiers qui sont donc labellisés. Bon, c'est aussi, en passant, une bonne façon pour les chefs d'établissement de se faire mousser, voilà, parce que c'est pas toujours, évidemment, quelque chose qui est apprécié par les enseignants. Arriver à gérer différents types de publics, c'est souvent de la théorie, mais dans la pratique, souvent, ça peut pas fonctionner. On arrive en 2009, et 2009, là, on va avoir besoin d'une petite pause musique, parce que là, ça va être le gros coup de massue avec la réforme amenée par le ministre Darcos. Donc c'est la dernière grosse réforme des lycées professionnels. Voilà, donc on va y venir juste après la pause musicale.
Liar! Liar! Liar!
Radio Libertaire, toujours donc l'émission micro-ondes 89.4. Donc on avait besoin de cette petite pause avec le groupe Analkunt, le morceau Grateful Dead, pour illustrer vraiment le gros coup de massue qu'on a pris en 2009 en lycée professionnel. Alors le bac pro est passé en 3 ans. Alors si vous avez suivi donc, jusqu'à présent, on était sur un bac pro en 2 ans, puisqu'on avait donc les élèves qui passaient soit un CAP, soit un BEP en 2 ans, et ensuite un suivi de 2 années de formation en 2 ans pour le bac pro. Donc ça fait 4 ans. Donc 2009, les élèves perdent 1 an de formation. La formidable idée du ministre, c'est de dire bah, comme le lycée général est en 3 ans, bah, on va passer le bac pro également en 3 ans. Et ça sonne vachement bien. Alors, c'est vrai que les élèves qui nous arrivaient de collège en seconde, ils disaient ah, c'est super, au lieu de passer 4 ans sur les bancs, on va passer 3 ans. N'empêche qu'eux, ils ne se rendaient pas compte au passage de la formation, du temps de formation que ça leur faisait perdre, et du coup, des difficultés que ça allait engendrer, notamment tant au niveau de l'insertion professionnelle que de la poursuite d'études, parce que c'est évidemment c'est l'idée du lycée pro, hein, c'est que on reçoit des élèves qui n'ont pas globalement pas forcément toujours eu un parcours extraordinaire en collège, et que souvent, bon, que ce soit pour des raisons, on va dire personnelles, sociales, familiales, bon, il y a plein de raisons possibles, mais ils ont besoin d'un temps pour reprendre confiance en eux, pour reprendre des bases, et ce temps, voilà, ils sont jeunes, hein, donc autant le prendre. Alors, un an de formation qui disparaît, ça signifie aussi que, bah, forcément, à un moment donné, il y a des enseignants qui disparaissent. C'est-à-dire qu'à partir de 2009, en l'espace de 3 ou 4 ans, on a à peu près 25% des postes qui disparaissent en lycée professionnel. Alors, dans certains cas, on a des enseignants qui partent en retraite, hein, donc ça se fait de façon, entre guillemets, indolore. Mais on a aussi pas mal d'enseignants qui perdent tout simplement leur poste. Donc je parlais tout à l'heure des contractuels, donc c'est ceux qui se retrouvent évidemment en première ligne et auxquels on ne fait pas appel les années suivantes. Alors, 2009-2021, je passe vite, le BEP se maintient pendant quelques temps sous forme d'une épreuve certificative, c'est-à-dire qu'en cours de route, on fait une espèce de rafistolage et puis on s'arrange pour donner le BEP aux gamins. 2021, le BEP disparaît tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on est obligé de souligner le fait qu'il y a des syndicats qui ont accompagné les discussions pour amener cette réforme. Hein. Je parle du SNETA, je parle du SGEN CFDT, je parle de le SE UNSA, et puis il y a aussi des syndicats qui ont constitué un front commun contre cette réforme d'Arcos, hein. Donc la FSU, la CGT, Sud, bon, la CNT en faisait partie également. Donc voilà, donc il y a évidemment une manœuvre budgétaire pour faire en sorte de faire des économies. Évidemment, le ministère, eux, bon, ils ont prétendu que non, parce que en fait, y aurait beaucoup plus d'élèves qui viendraient, du coup, ça sonnerait tellement bien, le bac pro 3 ans, qu'il y aurait beaucoup plus d'élèves qui viendraient, et donc du coup, les postes seraient maintenus. Bon, dans la pratique, ça n'a pas du tout été le cas. Alors, aujourd'hui, le bac pro, c'est à peu près 90 spécialités. Et je parlais du contrôle en cours de formation tout à l'heure. Là, avec la réforme d'Arcos, avant, pendant et après, on a petit à petit, on nous a dit petit à petit aux professeurs de lycée pro, dire voilà, bah, on va mettre un peu plus de CCF, puisque ça marche bien, puisque vous suivez très très bien vos élèves en stage et que vous les avez évalués très bien, plutôt que de faire un examen, de maintenir un examen 100% ponctuel. Bon, on va faire à peu près moitié-moitié. Alors actuellement, alors par exemple sur les matières professionnelles, les 2/3 de l'examen, donc les 2/3, se passent en contrôle en cours de formation. Donc c'est quand même pas rien. Y a les maths qui se sont passés en contrôle en cours de formation, le sport, donc ce qu'on appelle l'EPS, les arts appliqués et les langues. Alors évidemment, ça pose pas mal de questions, parce que en gros, hein, pour faire simple, on a 50% du diplôme qui se passe en contrôle en cours de formation. Donc ça veut dire que c'est les enseignants qui évaluent eux-mêmes leurs propres élèves au sein de l'établissement ou en entreprise, suivant le type d'épreuve. Donc voilà, donc là aussi, je pense que ça va être quelque chose qui va être encore amplifié avec la réforme actuelle. Mais déjà, ça veut dire qu'on a d'une certaine façon, des diplômes maison. Alors même si, après, les inspecteurs vont expliquer que, mais non, il y a une harmonisation qui est faite de façon à ce que tout le monde soit aligné et que tout le monde ait les mêmes chances. N'empêche que lorsqu'on a un prof du 94, un autre prof du 77, un autre prof du 93, je parle de l'Académie de Créteil, qui évalue chacun leurs élèves, il y a forcément des écarts, des différences, il y a forcément des difficultés en termes d'appréciation, en termes de recul. Et puis
d'intervenir. Tu veux dire par rapport au contrôle final qui arrive donc avec le baccalauréat professionnel et qui lui par contre est anonyme et donc du coup qui est corrigé par quelqu'un qui ne connaît pas l'élève, c'est ça dont tu parles ?
Moi ce dont je parle c'est que si moi je suis enseignant et qu'on me dit, bon, tu vas, en gros, 50% du diplôme repose sur toi, alors il faut vraiment que tu sois bon. Alors si j'ai 85 ou 90 ou 100% de mes élèves qui ont le bac pro, on va me dire que je suis un bon prof. Si j'ai 60% ou 50% de mes élèves qui ont le bac pro, on va dire que je suis pas bon. Donc, qu'est-ce que ça va m'inciter à faire ? Ça va m'inciter à, à faire en sorte que les élèves aient le diplôme, mais ils sont pas meilleurs pour autant, ni forcément mieux formés. Donc ça veut dire qu'un prof qui va être un peu plus rigoureux, un peu plus, voilà, attentif à évaluer de façon objective, bah, il sera noté, ou en tout cas, il sera pointé du doigt comme étant moins bon qu'un professeur qui va dire, bah, il vaut mieux que 85% de mes élèves aient le bac pro, comme ça je suis dans la moyenne, et puis il n'y a pas de vague, et tout va bien, quoi.
D'accord, oui, tu veux dire que ça fausse en fait l'évaluation, parce que l'enseignant lui-même se retrouve évalué de par le contrôle continu. Ah
bah, et le résultat de ses élèves, du coup.
Tout à fait. Et de toute façon, on te le fait clairement ressentir à un moment donné, ça c'est clair. Hein. Surtout quand on regarde les résultats de l'année précédente tous les ans, on dit, ah bah là, ça va pas, cette année on est à 60%. Oui, mais 60%, ça correspond au niveau qu'avaient les élèves. Alors, on arrive progressivement aux années Blanquer. Donc là aussi ont été un passage assez important qui ont aussi contribué à amener la réforme actuelle, le projet de réforme actuelle. Alors Blanquer, on part d'un diagnostic. C'est-à-dire que Blanquer, il arrive en disant le lycée professionnel, non, ça ne marche vraiment pas. Donc là aussi, il y a un diagnostic qui est faussé au départ, parce que le lycée professionnel, c'est bizarre. Ça marche pas, mais toutes les réformes successives sont d'abord testées en lycée professionnel et ensuite élargies aux autres établissements, au lycée général. Les enseignants en lycée pro, depuis longtemps, une reconnaissance pour la façon dont ils innovent, hein, parce qu'on est confronté à un public qui est moins scolaire, qui rencontre des difficultés au niveau de l'école. Donc il faut essayer de trouver d'autres stratégies pour les intéresser, pour les amener à la réussite, pour qu'ils reprennent confiance en eux. Et ça fonctionne, hein, puisqu'on garde tous contact avec nos anciens élèves, et puis on voit des parcours de vie qui sont très, très intéressants après le lycée pro. Mais voilà, Blanquer, lui, il arrive, il nous dit, voilà, alors, pour faire simple, hein, le lycée pro, ça ne fonctionne pas, et il faut trouver des moyens d'améliorer tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a une des filières qui a été pointée du doigt et qui a été souvent mise en avant, c'est la filière gestion-administration, donc la filière dite GA, donc, qui est celle qui est la plus importante numériquement, c'est de l'ordre de 75 000 élèves, quelque chose comme ça, quand Blanquer arrive. Et donc il a effectivement mis le doigt, appuyé sur le fait que cette filière-là rencontrait des difficultés importantes en termes d'insertion professionnelle, ce qui d'une certaine façon n'est pas faux, mais c'est normal, c'est des métiers qui ont considérablement évolué, c'est-à-dire que l'époque où on avait les filières secrétariat qui demandaient beaucoup, beaucoup de monde sur le marché du travail, ça s'est fortement contracté. Donc il a fallu trouver des solutions pour pouvoir... il faut encore aujourd'hui trouver des solutions pour que, à la fois, les enseignants qui enseignent en GA partent sur d'autres filières. Donc il y en a certains qui partent dans les filières commerciales, d'autres qui partent en logistique. Et on rencontre les mêmes problématiques avec les élèves qui rentrent en gestion administration. Donc là, ça, c'est un premier point. Alors, avec Blanquer, la classe de seconde aussi, elle a connu une petite révolution, à savoir que jusque-là, donc la classe de seconde était déjà un peu spécialisée. Et puis là, on a fait un petit peu la même chose qu'en lycée général. On a fait des classes de seconde beaucoup plus, globalisées, beaucoup plus générales aussi, de façon, entre guillemets, à laisser le temps aux élèves de faire un choix d'orientation. Alors, dans un sens, le diagnostic est pas faux, parce que c'est vrai qu'on peut pas nier le fait qu'un élève qui vient de collège, il sait pas toujours exactement ce qu'il veut faire. Je pense que tu en parleras tout à l'heure, oui. Pierre. La question de l'orientation, c'est une question qui reste au cœur des problématiques. Mais d'un autre côté, nous, ce qu'on a pu observer, c'est que du coup, ça nous fait une année aussi où on ne rentre pas complètement de plein pied dans les enseignements. Donc du coup, alors on a déjà perdu un an avec le bac pro en 3 ans. Et puis là, on est sur une année de seconde où on passe du temps à faire comme ça un petit peu, à se chercher un petit peu. Et du coup, on perd aussi beaucoup en termes de temps de formation. Alors après, les autres grandes nouveautés avec Blanquer, c'est l'accompagnement personnalisé qui a monté en puissance. Alors l'accompagnement personnalisé, qu'est-ce que c'est ? C'est, alors sur le papier, en théorie, c'est des heures sur lesquelles on est censé, on va dire, consacrer un temps adapté en termes de formation pour chaque élève. Les meilleurs, on va essayer de travailler de façon à ce qu'on puisse améliorer leur formation en termes de méthodologie pour la poursuite d'études, par exemple. Et puis les autres, ceux qui ont des besoins particuliers, on va essayer d'adapter ça. Sauf que là aussi, une fois de plus, ça se fait au détriment des matières, et en particulier des matières générales.
Oui, parce que ça se fait à moyen constant, en fait, à nombre d'heures constant.
Voilà, c'est ça.
De même qu'il a introduit, je crois, la co-intervention à ce moment-là, qui a le même effet de diminuer le nombre d'heures d'enseignement général.
Ouais, la exactement. Co-intervention, vous pouvez préciser rapidement ?
Alors la co-intervention, ça fait parfaitement la transition, puisque c'est en fait ces deux enseignants qui se retrouvent avec une classe. Alors c'est par exemple un enseignant de matière professionnelle avec un enseignant de français. Alors moi, dans mon établissement, par exemple, ça représente 1 heure par semaine. Actuellement, je fais 1 heure de cours par semaine avec un enseignant de français. Et à côté de ça, ça sera un enseignant de matière pro qui va faire 1 demi-heure par semaine avec le prof de maths. Donc une demi-heure par semaine, ça veut dire en gros 1 heure tous les 15 jours. Mais là aussi, alors c'est vrai que sur le papier, en théorie, ça paraît extraordinaire et formidable, mais dans la pratique, ça pose plein de difficultés, parce que déjà une demi-heure de maths en co-intervention avec le prof de matière professionnelle, c'est pas grand chose. Il faut arriver à trouver un temps de coordination, il faut arriver à faire quelque chose de cohérent. Et puis, une fois de plus, ça se fait au détriment de l'enseignement général. C'est vrai que les collègues d'enseignement général perdent des heures, donc leur programme, et perd du contenu. Et le troisième avec lequel tu as fait un petit peu connaissance, c'est ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Oui. Donc ça aussi, alors ça a été apporté par Blanquer. Alors ça aussi, c'est vrai que c'est des choses qui, à force, nous font un petit peu bondir les profs de matière pro, parce que le fait de fonctionner par pédagogie, par projet, c'est quelque chose qu'on fait depuis très 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 longtemps. Alors ça s'est appelé les modules, ça s'est appelé les projets pluridisciplinaires à caractère professionnel. Donc voilà, donc cette idée de faire en sorte que les professeurs de matière générale travaillent avec des professeurs de matière pro, tout ça, c'est pas nouveau, hein. Et puis le fait de fonctionner par pédagogie, par projet, pareil, c'est quelque chose qui remonte. Bon, il a rien inventé. Voilà, mais sauf qu'on se retrouve avec ce type d'appellation, le chef-d'œuvre, c'est-à-dire que les élèves au lycée professionnel, il faut qu'ils fassent des chefs-d'œuvre. Donc il y a comme un décalage entre la réalité, ce qu'ils peuvent réellement faire, et puis le nom qu'on donne à ce type de matière, entre guillemets, si je peux appeler ça une matière, Ça fait une question.
Ça fait un peu penser au corporatisme qu'on a pu vivre dans le Moyen-Âge avec le chef-d'œuvre que l'élève devait faire pour passer maître. Je pense aux anciennes organisations du métier, comme c'était le cas avant la révolution industrielle, par exemple. Donc on a cette idée un peu du retour à la belle histoire de France, hein, comme Blanquer aime bien mettre en avant. Et donc cette idée de chef-d'œuvre, comme tu le dis, ça paraît complètement décalé par rapport à la réalité de la société actuelle.
Oui, sachant que c'est encore une fois quelque chose qui vient se greffer par-dessus les enseignements et les programmes qu'on doit déjà dispenser, et sans qu'il y ait d'aménagement, d'heures prévues, etc. Donc il faut décider de faire rentrer cette espèce de truc-là dans nos enseignements, alors que c'est loin d'être évident.
Mmh. Non, mais vous avez tout à fait raison. Et en plus, c'est vrai que les mots ont de l'importance. Et je pense que le fait d'habituer les esprits avec l'idée que de toute façon, le lycée professionnel public, ça ne marche pas, et il faut aller vers l'apprentissage, c'est aussi... comme ça qu'on y parvient, c'est avec des mots, l'emploi des mots qu'on choisit. Et il y a un autre... c'est vrai que tu le soulignes, Pierre, c'est quelque chose qui peut fonctionner, parce qu'après tout, il y a des profs qui aiment bien le chef-d'œuvre. Ils disent « Ah, moi, je vais faire des projets avec des élèves, et puis ça me plaît. » Mais ça crée aussi des grandes différences d'un établissement à l'autre, parce qu'il y a des établissements où il va y avoir des moyens, où il va y avoir des professeurs qui ont de l'expérience, et puis qui vont trouver aussi en phase 2 un public qui va être, en demande, réceptif. Et puis d'autres pas, et donc on aura des écarts extrêmement importants en termes de formation. Alors, un dernier point aussi qui nous est arrivé en pleine figure, mais on le voyait venir avec Blanquer, c'est l'évaluation par compétences. Là aussi, ça prépare totalement le terrain à l'apprentissage, puisque si j'évalue par compétences, ça veut dire qu'à un moment donné, je peux cibler telle compétence et dire, je peux très bien réunir dans une même classe un élève de seconde avec, pourquoi pas, un adulte qui entre en formation et qui a besoin de telles compétences, et pourquoi pas aussi un apprenti. Donc l'évaluation par compétences, c'est l'outil parfait pour aller vers l'apprentissage. Voilà, donc je vais te passer la parole, Pierre, puisque toi, je pense que tu veux aller sur la réforme actuelle. Donc c'est le moment de la transition. On va aller sur peut-être une petite coupure musicale avant d'aller sur la réforme Macron.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez l'émission Micro-Ondes, qui est animée aujourd'hui par le syndicat des travailleurs de l'éducation du Val-de-Marne. Nous vous rappelons que vous pouvez, si vous avez des questions, appeler au studio au 01 43 71 89 40. Et donc je vais prendre la suite d'Antonio pour parler de la réforme actuelle qui est prévue donc par le président Macron, qui a été annoncé au début de son deuxième mandat, donc réforme du lycée professionnel, et dont le but est, dans les grandes lignes, d'adapter la carte des formations qui sont dispensées dans les lycées professionnels au bassin d'emploi. Donc c'est le cœur de cette réforme. Le but est donc que les entreprises qui sont proches d'un lycée professionnel soient de plus en plus intégrées et de plus en plus incité à entrer dans le lycée professionnel et à ce que le lycée professionnel en retour développe des formations qui correspondent à leur activité. Ceci pose plusieurs problèmes. C'est que, bien sûr pour nos élèves, puisque ça resserre en fait les champs d'activité, les champs de formation qui peuvent leur être proposés à uniquement ce qui se passe dans leur ville ou dans leur bassin d'emploi. Et du coup, ils n'ont plus le même choix qu'ils pouvaient avoir avant dans leur formation. Et ceci se faisant en plus au détriment toujours de l'enseignement général, qui leur sera nécessaire quoi qu'il en soit dans leur carrière s'ils veulent changer plusieurs fois de travail comme c'est le cas le plus souvent aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que le deuxième gros point de cette réforme, c'est d'avoir un système qui se rapproche de l'apprentissage et plus généralement une mixité des publics dans les lycées professionnels. Ceci pose également de nombreux problèmes. Antonio disait tout à l'heure qu'effectivement l'approche d'une évaluation par compétences permet cette mixité des publics et puis elle avait été amorcée par la réforme de Mélenchon des lycées des métiers. Sur le papier, ça peut être très joli de s'imaginer qu'on va mélanger les publics et puis qu'ils vont tous apprendre la même chose, etc. Dans les faits, d'avoir en face de soi, en tant que professeur, des élèves de 3e, des adultes, des élèves de lycée, et puis surtout, ce qui posera le plus gros problème, c'est qu'ils auront chacun leur rythme. C'est-à-dire que certains auront des périodes de stage à une période de l'année, d'autres à d'autres périodes de l'année. On voudrait mélanger avec des apprentis qui, eux, peuvent être une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Du coup, gérer une progression pédagogique dans des conditions comme ça, c'est impossible. C'est impossible.
Alors, je peux me permettre de rebondir là-dessus. Parce qu'on a donc la direction de l'évaluation de la prospective de la performance, donc la DEPP, qui publie tous les ans un peu les chiffres clés sur l'éducation, concernant l'éducation nationale. Alors, vous avez tous entendu Macron dire qu'on était arrivé à 800 000 apprentis en France et que, clairement, son objectif, c'est 1 million. Donc l'idée, c'est que pour arriver à 1 million, il faudrait que nous, en lycée pro, on ait une bonne partie de notre public qui soit également en apprentissage. Et moi, je regardais un petit peu les chiffres. Donc la DEPP, là, qui nous publie les chiffres du secondaire et qui nous dit, voilà, il y a 354 400 apprentis en 2022 dans le secondaire. Donc moi, je me suis dit, mais attends, c'est moi qui suis complètement con ou il y a un problème quelque part? Parce que 354 000 et 800 000, il y a un écart. Donc, est-ce que vous avez une petite idée de là où se trouve l'écart?
Alors là, c'est peut-être parce que quand un apprenti se retrouve à faire des stages dans plusieurs entreprises, il compte double, je ne sais pas.
Non, c'est encore plus simple que ça et quelque part plus tordu. C'est que quand on regarde un peu les pourcentages au niveau des apprentis, on voit qu'il y a les apprentis, alors 22% sont en CAP. En formation en CAP. 15% sont en bac pro. Donc, où sont les autres? Ils sont dans le supérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on a une majorité d'apprentis. On a 22% qui sont des bac plus 2. On a 19% qui sont des bac plus 3. Et on a 21% qui sont des bac plus 5 et plus. Donc c'est fantastique, parce qu'en fait, là, on est en train de constater qu'effectivement, l'apprentissage, là où ça marche très bien, c'est dans le supérieur, et qu'en fait, bah, ce n'est pas du tout nos publics qui sont adaptés pour l'apprentissage. L'apprentissage fonctionne très bien, effectivement, dans le supérieur, donc dans des gens qui ont déjà des appuis, des bases, qui ont déjà un parcours solide et qui vont vers une insertion professionnelle qui est quasi assurée. Mais voilà, je te repasse la parole, Pierre, ouais. Mais je pense que c'est important de le souligner, quoi.
Oui, effectivement. D'autant qu'on se rend compte dans nos lycées que de plus en plus d'élèves ont des difficultés à trouver des stages. D'autant plus quand il va falloir que la durée du stage soit importante, comme dans le cas de l'apprentissage. Par exemple, dans mon lycée, puisqu'on peut mixer les publics, on a deux élèves en terminale bac pro qui cherchaient une entreprise, et un seul, donc seulement deux élèves sur tout l'ensemble de nos élèves, et un seul a pu trouver un patron cette année. Donc il y a vraiment une grosse difficulté à trouver des entreprises qui veuillent bien embaucher nos élèves. Et du coup, s'imaginer qu'on généraliserait ça et qu'on l'étendrait encore à différents métiers, c'est complètement absurde. Ça ne fonctionne pas. Le fait d'imaginer en fait un rapprochement entre lycée pro et CFA, l'idée qui est derrière aussi, c'est que les CFA sont majoritairement des établissements privés qui sont financés par la taxe d'apprentissage, qui est payée par les entreprises, et du coup, ça n'est plus l'éducation nationale.
Tu peux rappeler ce que c'est que les CFA?
Ce sont les centres de formation d'apprentis.
D'accord.
Qui ont un statut qui est totalement différent des lycées et donc d'organismes de l'éducation nationale, qui sont soit totalement privés, soit gérés par des chambres de métiers, et qui sont donc financés par la taxe d'apprentissage. Ce rapprochement qu'on nous promet là, et avec dans l'idée peut-être de certains de faire disparaître les lycées pro parce que c'est l'apprentissage qui serait merveilleux, on se rend compte dans les faits que quel que soit le bout par lequel on le prend, ça marche pas. La mixité des publics, c'est extrêmement compliqué. Le fait que les élèves aient énormément de difficultés à trouver des patrons pour les prendre en apprentissage quand ils ont 15 ans, en fait, puisque c'est ça la difficulté. C'est s'ils veulent faire un CAP en apprentissage, ils ont 15 ans, la première année, ils savent pratiquement rien faire. Il faut trouver l'entreprise qui sera prête à les prendre, à s'occuper d'eux, à les former, etc. C'est très compliqué. Et du coup, on voit pas comment ça pourrait se mettre sérieusement en place. Au fond, les soi-disant raisons de réformer le lycée professionnel, elles sont organisées depuis longtemps et elles sont souvent contradictoires, elles sont souvent absurdes. Depuis une trentaine d'années, on dévalorise les métiers manuels. Moi, j'ai entendu toutes mes études et toute ma jeunesse que les métiers de quoi, tu vas pas être plombier ou électricien, il faut que tu fasses des études. Il faut faire des études à tout prix. Petit à petit, on a développé de plus en plus les métiers tertiaires en France au fur et à mesure que nos politiques désindustrialisaient la France allègrement. Et puis, on se retrouve depuis quelques années avec à peu près 85% d'une classe d'âge qui arrive au bac et qui après nous disent « j'aimerais bien faire des études supérieures puisqu'avec le bac... »
Il y a aussi un autre aspect, c'est que former des élèves dans le tertiaire, les former à de la gestion d'administration ou à du commerce, ça coûte beaucoup moins cher parce que tu as besoin d'une salle de classe, alors que pour former des menuisiers, des chaudronniers, des électriciens, là il faut des ateliers, enfin t'en sais quelque chose, ça coûte beaucoup plus cher en termes d'investissement, c'est beaucoup plus long à mettre en place, donc c'est aussi un aspect donc c'est facile c'est parfait, on a de la place pour tout le monde en lycée pro, on ouvre des filières tertiaires s'il y a besoin, c'est très souple à monter, à faire disparaître quand on n'a plus besoin.
Oui, et du coup, ces 85% de bacheliers qui se retrouvent à vouloir faire des études supérieures, nos politiques nous ont décidé à un moment que tout ce petit monde-là, ça faisait trop de monde, et que donc il fallait les sélectionner, d'où Parcoursup, et dont Alban, tu nous parleras plus en détail tout à l'heure. En même temps, Depuis les années 70, avec le collège unique, on a voulu former tous les enfants de la même façon, dans un même moule, sans réellement de moyens suffisants. Et on s'est toujours rendu compte que cette manière de voir les choses, cette manière de concevoir le collège, laissait de côté beaucoup d'élèves qui ne rentraient pas dans ce moule pour n'importe quelle raison, parce que c'est pas des machines, c'est des enfants. Et que donc on a ce collège unique qui casse beaucoup d'élèves qui sont cassés par ce système scolaire et qui se retrouvent à 15 ans complètement perdus, à pas savoir quoi faire et à pas savoir comment s'orienter. Dans les faits, il y a une étape très importante pour eux qui est la fin de la troisième, où ils sortent du collège et ils doivent quoi qu'il en soit être orientés. On laisse tout ça dans les mains de professeurs principaux de troisième et de la direction des directions des collèges, qui se retrouvent à devoir entre guillemets caser tous leurs élèves avant le mois de juin. Donc en gros, 60% vont aller dans en seconde générale et technologique. Et puis, suivant les collèges, on aura un pourcentage de l'ordre de 30, 40, 45% qui iront dans la voie professionnelle. Malheureusement, sur tous ces élèves-là, une grande partie seront des élèves qui n'auront pas fait un réel choix d'orientation et qu'on enverra à un endroit où le taux de pression sera pas trop élevé, où il y aura de la place en gros, et puis on leur dira bah, c'est bon, tu as une seconde en bac pro dans tel lycée, et la mission du collège s'arrête là, l'élève a une orientation en juin, il sait qu'en septembre il va dans tel lycée. Dans les faits, après, les professeurs de bac pro voient arriver ces élèves qui, en partie, se demandent ce qu'ils font là. Et du coup, on constate énormément d'échecs, forcément. Et on constate après, le gouvernement nous dit, regardez, il y a beaucoup d'absentéisme, les résultats ne sont pas suffisants, il faut réformer. Avec toujours cette idée de réforme, entre guillemets, il faut réformer, il faudrait réformer. Et du coup, la vision du gouvernement dans ces soi-disant réformes, c'est toujours d'aller dans le sens des entreprises et par deux moyens principaux, fournir de la main-d'œuvre rapidement, donc comme on l'a vu, en essayant de développer l'apprentissage ou en voulant augmenter la durée des stages. Et je crois que j'ai pas dit tout à l'heure qu'il y a deux jours, dans cette réforme actuelle du lycée professionnel prévu par Macron, on avait un élément qui était très important et contre lequel dans les lycées professionnels on se battait bec et ongles. C'était que Macron avait l'intention d'augmenter de 50% les périodes de stage en entreprise sur les 3 années de bac pro et donc de passer de 22 à 33 semaines. Il y a eu beaucoup de contestations autour de cette réforme et la ministre déléguée à l'enseignement professionnel a annoncé avant-hier, je crois, que cette réforme-là, cette mesure-là, ne serait pas appliquée. Donc au moins, cette idée de doubler le temps d'augmenter de 50% le temps de stage ne sera pas mise en œuvre à la rentrée 2023 comme c'était prévu.
Si je puis me permettre, la raison pour laquelle vous vous battez contre l'augmentation de ce temps de stage, c'est notamment parce que les élèves qui arrivent en bac professionnel ont souvent d'énormes difficultés dans les enseignements généraux et que ces enseignements généraux permettent, s'il y a besoin plus tard, de pouvoir changer de filière, parce que c'est quand même un peu jeune, hein. Sorti de troisième, on a quel âge? On a 14, 15 ans, grand maximum, si on a eu la chance de redoubler. Et du coup, ça veut dire qu'à partir de l'âge de 15 ans, on choisit, parce que l'élève, apparemment, d'après ce que tu viens de dire, Pierre, ne choisit même pas lui-même sa propre orientation, et on lui choisit un métier en fonction du bassin, donc en fonction des entreprises présentes. Et on supprime encore plus de matières générales, donc d'heures où ils ont la possibilité, s'ils veulent se réorienter plus tard, parce que on ne sait jamais, un bassin de métier, on sait très bien, surtout en France, peut changer en 10 ans, et la personne se retrouve au chômage sans avoir la possibilité, en fait, de se retourner et de trouver un autre métier. En fait, voilà. C'est bien ça que, voilà. Pour les raisons pour lesquelles vous vous battez, c'est ça, non?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sur les trois années de bac pro, seconde, première, terminale, on serait passé de 22 semaines à 33 semaines, c'est-à-dire 11 semaines d'enseignement général qui sautent. Et c'est énorme. Et comme le disait Antonio tout à l'heure, c'est une tendance depuis longtemps de diminuer l'enseignement général et au profit de périodes de stage plus longues, mais qui, comme on disait tout à l'heure, qui pose de nombreux problèmes puisque les élèves ont beaucoup de mal à trouver des entreprises qui veulent bien les prendre en stage. Et puis, aller en stage en seconde alors qu'on vient d'arriver en CFA, qu'on sort à peine du collège, il y a des maîtres de stage qui disent « Mais qu'est-ce que vous leur apprenez à l'école ?» Ils ont besoin du temps de formation à l'école, non seulement dans les matières générales, mais aussi dans les matières professionnelles.
Moi, je rebondis quand même sur ce que tu dis, Alban, parce que là, je pense que tu as vraiment mis le doigt sur le cœur du problème. C'est quel est le projet du lycée professionnel? Est-ce qu'on est en train de former des citoyens, déjà, premièrement? Parce qu'on parle beaucoup de la République, la laïcité, etc. Alors récemment, je discutais avec un principal de collège et qui me dit, ouais, c'est formidable, le projet du gouvernement pour la laïcité, c'est que bientôt on va faire mettre des uniformes aux collégiens. Donc voilà le type de projet, voilà, pour faire passer les notions de laïcité. Donc c'est fantastique, quoi. Donc et après l'autre aspect que tu soulignes, c'est qu'effectivement ces jeunes ont besoin d'avoir des bases solides parce que de toute façon leur vie active va être amenée à les faire travailler dans différents métiers, et c'est très très bien de pouvoir changer de voie au cours de sa vie, mais moi ce qui me rend un petit peu pessimiste au niveau en tant que professeur en lycée pro, c'est de voir que plus le temps passe et plus j'ai l'impression d'être en train de former des jeunes qui, sur le marché du travail, auront d'autant moins la possibilité de se défendre en tant que citoyen, et d'autant moins de possibilités de, à la fois d'évoluer, de faire valoir leurs droits. Donc j'ai presque l'impression d'être en train de former la main-d'œuvre bon marché de demain, et ça c'est quelque chose qui est quand même assez déprimant, quoi.
Oui. Et du coup, si on reprend la suite de la vision du gouvernement, donc fournir de la main-d'œuvre rapidement aux entreprises, et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, adapter la formation des jeunes aux entreprises locales, en faisant entrer ces entreprises dans les lycées pro, et puis à terme, pourquoi pas transformer complètement les lycées pro en CFA, avec des entreprises de formation sur lesquelles l'État aurait la main, les entreprises auraient la main, et avec des budgets qui seraient conséquents puisqu'ils seraient versés directement par les entreprises.
Faire rentrer les entreprises dans les lycées pro, c'est y compris les faire rentrer dans les conseils d'administration. Alors, bon, pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas forcément, le conseil d'administration, c'est un petit peu le comité qui réunit à la fois les enseignants, la direction, les parents d'élèves, les élèves également, et également les différents personnels du lycée pour prendre les grandes décisions qui vont...
Les élus.
Voilà, les élus du personnel. Bon, l'idée, c'est de faire rentrer de l'entreprise au CA, et donc au conseil d'administration,
et donc... Et est-ce que ça aurait une influence aussi sur les décisions pédagogiques, du coup, le fait que les entreprises puissent rentrer dans le conseil d'administration, est-ce que ça pourrait leur permettre d'eux-mêmes pouvoir choisir les matières et le programme que les enseignants devraient enseigner aux élèves pour qu'ils puissent plus tard devenir apprentis?
C'est ce dont certains rêvent, oui. C'est ce dont certains rêvent, puisque dans l'idée d'adapter les formations aux métiers des entreprises qui sont présentes dans le bassin d'emploi, certains rêvent d'une collaboration très étroite entre l'organisme de formation, qui est aujourd'hui principalement le lycée pro, et les entreprises pour matcher au mieux, pour être le plus possible en adéquation. Au contraire, nous, on imaginerait, par exemple, un collège organisé pour tous. Si on a un collège unique, eh bien, un collège qui soit organisé pour tous les élèves, puisqu'on nous parle d'inclusion et on fait l'inclusion de fait forcée, puisqu'on inclut tous les élèves dans nos classes, il faudrait nous en donner les moyens de les inclure. Par exemple, avec des classes de moins de 20 élèves, des souplesses d'organisation, des personnels qui sont mieux formés, des AESH par exemple, comme on devrait les avoir mais qu'on ne les a pas.
Oui, ça, je peux peut-être expliquer en deux mots pour nos auditeurs.
Je peux vous l'expliquer.
Vas-y.
Je suis la personne un peu la mieux placée pour ça. En fait, AESH, c'est des personnes, je ne vais pas vous redire toutes les lettres du sigle, mais c'est les anciennes auxiliaires de vie scolaire, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent des élèves en situation de handicap, donc des élèves qui ont ce besoin d'une personne qui va accompagner l'élève pendant les heures de cours. Pour l'aider à pouvoir suivre l'enseignement qui est donné en groupe classe. Et donc, le problème qu'on a actuellement, c'est que ce sont des personnes qui sont sous-payées. Ça va de 600 à 800 euros globalement hein, par mois. Hein, et elles n'ont aucune formation. Elles sont employées comme ça, un peu... À la tâche, quoi. C'est on les emploie comme ça pour un contrat à durée déterminée qui doit être renouvelé à chaque fois. Donc c'est de la grande précarité. Hein. C'est la grande précarité pour ces personnes-là. Et donc on se retrouve dans des situations où des fois on a des personnes qui sont là pour aider des élèves en difficulté, mais elles-mêmes sont en difficulté. J'ai vu, moi, dans des écoles, des AESH qui sont elles-mêmes des personnes en situation de handicap qui vont aider des élèves qui sont en situation de handicap. Donc, on est vraiment sur quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, l'inclusion, oui, mais avec les moyens, bah, là, on en est loin, effectivement.
Oui, d'autant que depuis peut-être 2 ans, je crois, elles sont gérées, on dit elles parce que ce sont majoritairement des femmes,
oui.
Elles sont gérées dans des pôles uniques, des espèces de pôles ressources dans lesquels on va leur dire...
C'est pas des pôles ressources, je me permets d'intervenir. Vas-y. Parce qu'il y a souvent confusion entre le pôle ressources et ce qu'on appelle le PIAL, pôle d'intégration, alors le AL, excusez-moi... J'ai un peu oublié, mais voilà, en gros, c'est une personne, ça peut être un directeur ou un chef d'établissement du secondaire qui va gérer les ressources humaines, hein, choisissant vraiment les mots qui vont avec. C'est pas au niveau du recrutement, mais ça va être au niveau de quel AESH va travailler avec quel élève. Et en fait, ils font leur emploi du temps. Parce qu'il y a des AESH qui vont être individuels, donc qui vont rester avec l'élève et qui vont faire des heures avec cet élève-là, mais tous les élèves n'ont pas une AESH à temps plein. Et donc ces heures pour les AESH individuels vont se retrouver, elles ont leur quota d'heures, je crois que c'est 24 heures, je ne me rappelle plus exactement. Oui, mais du coup, ces heures qui restent, elles vont du coup aller dans une autre école, parfois, et géographiquement des fois éloignés, pour faire des heures avec un autre élève.
Mmh. 3 heures par-ci, 2 heures par-là.
Voilà, c'est ça. Et il y a les AESH mutualisés qui, elles, peuvent travailler soit dans les dispositifs de type classe pour les élèves en situation de handicap qu'on appelle les ULIS, voilà, ou qui réunit des tous les élèves qui ont censé avoir le même handicap, qui elles aussi peuvent aussi bouger en fonction des différentes heures des élèves. Donc c'est très contraignant pour ces personnes-là parce qu'elles sont obligées de bouger en permanence. Elles ont des emplois du temps qui sont très flexibles. Et ça pose vraiment problème parce que au niveau des ressources humaines, on s'en doute, les directeurs d'école et les chefs d'établissement, ils n'ont pas forcément la formation pour pouvoir bien gérer ça.
Et en plus, ils se retrouvent souvent en position de gérer la crise, c'est-à-dire qu'ils ont 3 ou 4 besoins et ils ont un AESH, alors où l'envoyer, quoi.
C'est exactement ça, oui.
Oui. Et donc, voilà, un petit aperçu du coup des nombreux problèmes qui peuvent se poser au collège si on voulait réellement inclure dans des bonnes conditions tous les élèves. Donc déjà, on ne peut pas s'étonner qu'en fin de troisième, on ait des difficultés. Et puis, une deuxième chose qui nous paraît très importante, ça serait une vraie découverte des métiers et de ce que pourraient imaginer les enfants au collège, ou même avant, pouvoir imaginer leur vie par un biais qui ne soit pas uniquement « qu'est-ce que je vais faire comme métier pour travailler dans quelle entreprise ?» Puisque finalement, on ne leur parle que de ça. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Qu'est-ce qu'il faut faire comme formation pour travailler où ? Et du coup, on se retrouve à tous les âges, finalement, que ce soit au collège, que ce soit en fin de collège, en troisième, ou même après au lycée, avec des élèves à qui on dit « qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» pour savoir où il faut s'inscrire. On parlera aussi un petit peu de la réforme du lycée, de Blanquer, toujours, qui impose aux élèves de choisir des spécialités en fin de seconde, donc à 15 ans, choisir trois spécialités qui vont déterminer une couleur à leur baccalauréat et qui fera que, bah, avec ce bac, ils pourront s'inscrire ou pas dans certaines formations ensuite. Et donc, on leur impose des choix contraignants à 15 ans. Moi, j'aimerais qu'au collège, on ait du temps avec les élèves pour qu'ils puissent se projeter. Moi, j'aimerais être artiste, tu pourrais être écrivain, tu pourrais être clown, tu pourrais être archéologue, sans forcément penser toujours à un métier productif dans l'industrie, puisque il n'y a pas que ça dans la vie, il y a énormément de métiers qui sont, ou d'activités qui sont nécessaires à la vie en collectivité aussi. Au lieu de tout ça, les gouvernements cherchent à les mettre au travail le plus vite possible. Et puis, on se rend compte que, finalement, un peu comme d'habitude, seuls les élèves de milieux favorisés peuvent faire un choix éclairé dans leur orientation. Mmh. C'est-à-dire qu'ils auront les codes, ils auront les informations, ils auront tout ce qu'il faut pour choisir leur spécialité au lycée en connaissance de cause, pour rédiger les lettres de motivation dans Parcoursup, etc. Et les autres, ils sont poussés là où il y a de la place. Et donc, après, une fois qu'on a agi comme ça, on s'étonne qu'il y ait des systèmes qui fonctionnent mieux que d'autres. Bien, donc, je vais laisser la parole à Alban, qui nous parlera un peu plus de Parcoursup, et puis qui, après, nous parlera aussi de ce qui se passe dans les âges les plus jeunes. Tout ça après une pause musicale.
Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous appeler au studio au 01 43 71 89 40. Et c'est bien l'émission Micro-Ondes, tenue aujourd'hui et présentée surtout aujourd'hui par le syndicat des travailleuses et des travailleurs de l'éducation du Val-de-Marne. Donc, comme Pierre nous l'a annoncé, vous l'a annoncé juste avant, je prends la parole pour pouvoir parler de Parcoursup. Donc, Parcoursup, c'est une plateforme web qui a été destinée à recueillir et à gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur en France. En 2020, elle gérait 936 000 étudiants et plus de 21 000 formations. Donc, ça a été mis en place par l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en 2018 dans le cadre de la loi Orientation et réussite des étudiants. L'application de Parcoursup était mise en place pour remplacer l'admission post-bac, c'est-à-dire APB pour ceux qui connaissent, et qui en fait avait pour principe de tirer au sort les étudiants qui n'avaient pas pu avoir de fac, dont les vœux n'avaient pas pu être exaucés. Et ce système-là a été considéré comme injuste. Mais il faut savoir, je n'ai pas les chiffres là sous les yeux, ni dans ma tête. Et il faut savoir quand même que c'était vraiment une minorité d'étudiants qui étaient tirés au sort. Hein. La grande majorité obtenait des vœux. Mais se poser un problème, c'est que ce pourcentage d'étudiants qui devaient être tirés au sort était de plus en plus nombreux, tout simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de places dans les universités, dans le supérieur. Et donc, un choix s'est posé à ce moment-là. Est-ce qu'on fait en sorte d'avoir plus de facs, plus de professeurs dans les études supérieures pour pouvoir accueillir autant d'élèves dans le supérieur, ou est-ce qu'on sélectionne plus? Et évidemment, vous connaissez la réponse. L'idée fabuleuse, ça a été de plus sélectionner, parce que ça engage quand même beaucoup moins de moyens. Et puis, ça permet surtout de produire plus de manœuvres moins chères. Voilà. Donc, l'idée de Parcoursup, son intention, on la connaît assez bien. Aujourd'hui, on a quand même un bon retour sur ce qui se passe, c'est-à-dire beaucoup, je sais pas les chiffres non plus, mais un certain nombre d'étudiants qui se retrouvent dans des secteurs qu'ils n'ont pas forcément choisi, tout simplement parce que, en fait, dans Parcoursup, ce qui n'était pas le cas d'avant sur APB, il n'y a pas de hiérarchisation des vœux. On fait des vœux et il se peut que le dernier vœu qu'on a mis dans Parcoursup, parce que il fallait faire un certain nombre de vœux, soit celui-là qui ait été choisi. Et donc, on se retrouve à faire quelque chose qu'on a écrit tout simplement dans Parcoursup pour remplir des cases, alors que ce n'était pas la principale motivation pour l'étudiant qui veut aller dans le supérieur. Donc là encore, on est avec ce problème d'orientation dont nous parlait Pierre tout à l'heure, mais cette fois-ci plus à 15 ans, mais à 18 ans. Et avec cette dépossession l'avenir des jeunes et des enfants, qui est vraiment marquant de notre société actuelle. Le fait que les élèves n'aient plus le choix, c'est quelque chose qui est de plus en plus marqué dans notre société. On doit travailler dans les bassins en fonction de l'emploi qui est présent et non pas en fonction de ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est vraiment l'idée qui revient souvent quand on entend les médias et quand on entend le discours de nos gouvernants. À cette époque, quand ils ont voulu mettre en place en 2018 cette réforme, à l'époque, j'étais déjà à la CNT, j'étais déjà enseignant et je me suis battu auprès des étudiants et des IATOS et des enseignants, des professeurs de l'université de Tolbiac, qui avait eu d'ailleurs une émission ici à Radio Libertaire où on avait invité tout ce joli monde de la commune libre de Tolbiac en 2018 et où ils nous expliquait leurs revendications et comme par hasard, ces revendications, c'était cette mise en garde sur l'orientation des étudiants qui se retrouvaient de manière opaque, parce que c'est toujours le même problème. Parcoursup, c'est informatisé, c'est un algorithme, oui, mais en soi, il ne peut pas fonctionner tout seul. Donc pour ça, il faut faire participer les facultés, il faut faire participer les écoles supérieures. Donc elles ont elles-mêmes leurs propres algorithmes qui sont secrets, hein, on n'a pas accès à cet algorithme-là. Donc ils peuvent mettre à peu près tous les critères de sélection qu'ils ont envie de mettre, même discriminatoires, on n'en sait rien, on ne le sait pas. Et de fait, ben, du coup, ça permet de mieux sélectionner le type d'étudiant qu'on peut avoir dans les facs.
Alors, si je comprends bien ce que tu dis, pour que ce soit clair pour les auditeurs, parce qu'on sait que lorsqu'on va candidater sur Parcoursup, sur certaines filières dites sélectives, bon, par exemple les BTS, on sait que les établissements vont éplucher les dossiers des élèves, regarder leurs lettres de motivation, etc. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que en fac, là où en principe on n'a pas de sélection à l'entrée, on est bien d'accord ?
Bien sûr.
On a donc des algorithmes qui sont qui servent en fait à ça malgré tout.
Oui, oui, il y a une sélection maintenant qui se fait. Alors donc juste, je vais vous raconter encore une anecdote personnelle. Hein. J'étais à Jussieu aussi à l'époque. J'aidais pas mal les étudiants et les professeurs à l'IATOS. À Jussieu, on avait essayé de bloquer la fac. Ce qui n'a pas marché parce que Jussieu est très difficile à bloquer. Et je me suis retrouvé en face d'un professeur de l'enseignement supérieur qui, lui, était contre les grévistes et contre les bloqueurs de fac et qui me disait « Oui, mais monsieur, vous ne comprenez pas, ça va nous permettre d'avoir des étudiants de meilleure qualité. »
Alors, quand moi, comme les poulets de Bresse.
C'est, ouais, non, mais c'est impressionnant. Moi qui travaille dans le spécialisé, moi qui a pour principale mission de faire en sorte que les élèves qui ont les plus grosses difficultés scolaires puissent justement essayer de s'en sortir dans ce système scolaire qui est pas facile pour tous les élèves. Entendre un enseignant qui exigeait d'avoir des étudiants de meilleure qualité, je me dis, mais non, c'est pas possible. On fait pas du tout le même métier. Et pourtant, tous les deux, on est censé être professeurs. Donc, il y a vraiment cette idée, que l'écrémage doit être fait. Et Parcoursup, c'est un peu ça. Il y a cette idée donc, de sélection des facs qui est déguisée, puisque l'idée même qui avait été avancée par le passé de pouvoir faire des concours, pas des concours, mais des examens d'entrée dans les facs, je crois que c'était sous Allègre, hein, ça avait fait pas mal de remous à l'époque et ça n'était pas passé. Bah, en fait, c'est passé par la fenêtre, ouais. Voilà, et du coup, c'est passé grâce à Parcoursup.
Ouais, et du coup, finalement, cette idée de sélection à l'université qu'on essayait déjà de nous faire avaler avec la réforme de Vaquet en 86, à l'époque, on s'est battu, ça n'a pas été mis en œuvre. Et finalement, comme tu dis, c'est rentré par la fenêtre avec Parcoursup, qui a institutionnalisé de fait cette sélection, puisque dans les licences où il va y avoir des milliers de candidatures et où il va y avoir, je dis n'importe quoi, 400 places, ben, il y a effectivement une sélection qui se fait et on ne sait pas du tout sur quels critères. Donc officiellement, il n'y a pas de sélection. Dans les faits, les élèves sont triés et on ne sait pas du tout comment. Et pas du tout non plus d'une filière à l'autre, d'une licence à l'autre. Quand on discute avec des profs de licence qui se retrouvent à effectivement faire cette sélection, eh ben, chacun a sa méthode, chacun sélectionne avec ses critères. Et donc, comme tu dis, ça ouvre la porte à toutes les dérives. En plus du fait que sélectionner à l'université, c'est quelque chose qui nous a toujours révoltés et qui est devenu maintenant quelque chose qui est complètement, complètement admis et classique.
Et je reprendrai même ce que tu dis, ce qu'il y a aussi d'important, comme c'est notre cas en tant qu'enseignant dans la banlieue parisienne, c'est aussi de couper la possibilité pour les élèves, futurs étudiants qui voudraient faire des universités sur Paris, qui pour certains, il suffit de prendre un métro ou un RER pour pouvoir y accéder à ces universités. Bah, avec les critères de sélection de Parcoursup, ça devient plus compliqué parce que il y a vraiment une sélection géographique par rapport au bac qui était déjà présente avant, hein, mais là cette fois-ci c'est vraiment dans l'algorithme de Parcoursup et donc du coup des personnes qui veulent faire des études supérieures mais dont la spécialité n'est pas dans leur département, bah en fait vont se voir refuser au profit d'une étude supérieure qui correspond à un lieu géographique et non pas à leur volonté d'études. Et ça, c'est quand même grave, parce que moi, à l'époque, dans les années 2000, début des années 2000, j'ai décidé de partir de ma Provence natale. C'était encore possible et il n'y avait pas Parcoursup. Et donc, je ne m'en rendais pas compte à cette époque-là de la liberté que je pouvais avoir, de pouvoir déménager pour pouvoir aller dans une fac autre. Voilà, c'est moi, j'ai grandi à Toulon. À Toulon, il n'y a pas de fac de philo. Et j'aurais demandé philo à l'époque pour aller à Nice. Peut-être que ça m'aurait été refusé. Et parce qu'il n'y avait de la philo qu'à Nice. Et ça, tout ça, c'est ce genre de système qui fait que, en fait, petit à petit, on met en place des choses pour que les futurs citoyens n'aient pas le choix. Et ça, c'est quand même quelque chose de grave, parce que si on veut être citoyen, il faut avoir la possibilité de choisir. C'est quand même le principe de base de la démocratie, même si ici, Radio Libertaire, on considère que les élections, c'est quelque chose qui est une grosse arnaque. Il y a quand même cette idée dans la démocratie représentative que l'on choisit son chef d'État. Même si nous, on est contre l'État et contre les chefs, c'est quand même le principe de base de la démocratie représentative. Or, on se rend compte qu'on est dans une démocratie représentative qui supprime l'idée même du choix. Comment voulez-vous plus tard, justement plus à l'âge où on devient citoyen, que l'on puisse s'imaginer avoir un réel choix face aux élections, mais aussi face à sa vie, quand on nous a pas donné le choix de notre métier et de notre avenir?
Alors si je peux te rassurer quand même, les classes les plus favorisées l'ont toujours le choix.
Évidemment.
Quand leurs enfants... Merci. Ouais, ça rassure quand même.
Évidemment, merci
lycées,
Pierre.
Les grands lycées parisiens sont bien fournis. Les grandes écoles derrière et les grandes classes préparatoires aussi. Et il y a de la place pour eux. Il ne faut pas trop s'inquiéter.
Merci, c'est une très bonne transition. Parce que justement, je voulais en arriver là. C'est que ce qu'on voit manifestement, et moi je vais parler un peu plus du primaire, du premier degré, c'est-à-dire que ce qui est le plus menacé... par les discours et par les réformes qu'on a pu avoir dans le premier degré, c'est souvent l'école maternelle et les zones d'éducation prioritaire qui aujourd'hui sont des réseaux d'éducation prioritaire, c'est-à-dire les deux systèmes, les deux dispositifs qui permettent aux classes les plus défavorisées de pouvoir essayer, j'ose dire, de rattraper un peu le retard culturel qu'il peut y avoir entre les classes les plus favorisées qui, elles, ont la culture de l'école, parce que la culture de l'école, c'est la culture bourgeoise, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Bourdieu, et, alors que les cultures populaires, les moins favorisées, elles, pour certaines, ne parlent pas français, donc ont déjà pas cette facilité de pouvoir communiquer dans le pays dans lequel ils grandissent, voire parlent français, mais n'ont pas forcément les codes de l'école. Et ce problème d'orientation, qui est de plus en plus jeune, est vraiment important, parce que sans la maternelle, qui permet justement aux classes les plus défavorisées d'avoir ce palier pour pouvoir accéder à la lecture au moment du CP, mais en ayant tout ce travail en amont pour pouvoir apprendre le français pour certains ou les codes de l'école tout simplement pour d'autres, quand ils arrivent au CP, si on a commencé aujourd'hui l'école à 6 ans, on verrait que le décalage entre les classes sociales et économiques se creuserait encore plus. Donc voilà, et on entend souvent, moi depuis le temps que je travaille en primaire, on entend souvent une volonté par rapport au maternel de les changer, d'en faire. Il y a eu une époque où ils parlaient même d'en faire des jardins, des crèches améliorées. Non, je pense que la maternelle, c'est quelque chose de très important. On est le seul pays du monde à avoir une école gratuite. Et maintenant obligatoire à partir de l'âge de 3 ans, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir défendre. Et pareil pour les zones d'éducation prioritaire, elles sont souvent critiquées parce que il n'y a pas de résultat, et pour cause, dès qu'un établissement commence à avoir des résultats un peu trop élevés, eh ben on lui enlève
on
le sort du réseau. Donc il peut pas y avoir de bons résultats, puisque si on en a des bons, on sort du réseau. Et ce sont quand même, là aussi c'est pareil, pourquoi prioritaire ? Prioritaire parce qu'ils sont dans des zones où la population ont des revenus les plus bas et qui souvent s'est accompagné d'une culture qui n'est pas scolaire. Et donc du coup, c'est cette priorité, c'est-à-dire la priorité c'est quoi ? C'est des classes moins chargées, alors c'est à 25 élèves. On pourrait discuter de ce que c'est que le moins chargé, 25 élèves, c'est quand même pas mal. Mais avec aussi ce qu'on appelle le réseau d'aide spécialisé aux enfants en difficulté, le RASED, dans lequel je travaille. Donc des aides supplémentaires au sein même de l'école pour les élèves en difficulté, sur le temps scolaire, pour les aider à pouvoir réussir à sortir de leurs difficultés scolaires. Tout ça peut disparaître si on supprime le principe même de l'éducation prioritaire. Et c'est à chaque fois ces sujets-là qui sont remis en question, notamment à travers l'idée de cité éducative. Les cités éducatives, hein, dont Macron aime bien parler, c'est justement, on transforme même beaucoup l'école pour que ça devienne un réseau entre les différentes écoles élémentaires et maternelles qui seraient chapeautées par l'établissement du secondaire, en l'occurrence le collège, et surtout par le principal, qui serait le nouveau supérieur hiérarchique. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement du primaire, en fait, nous n'avons comme seul supérieur hiérarchique que l'inspectrice de circonscription, qui a une vingtaine d'écoles sous sa gestion, et en fait, on ne les voit quasiment jamais, ces personnes-là, très rarement. Là, ce serait plus le cas, puisque ce serait le principal, et ce principal a la possibilité aussi d'accueillir des partenaires autre que ceux de l'éducation nationale. Donc là aussi, encore une introduction du privé dans les commissions d'administration. Et donc, dans les programmes, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à Antonio, et là, on est encore sur cette idée que ben, l'éducation nationale va mal, le service public va mal, donc on réunit tout le monde pour en faire des grosses structures, des énormes structures, avec la possibilité pour les partenaires extérieurs, c'est-à-dire le privé, de venir financer ces structures-là. Et c'est problématique parce que, là encore, on est sur une formation d'individus qui vont être des employables à merci pour la suite, avec la possibilité pour les entreprises de recruter de plus en plus jeunes.
Et puis en plus, à terme, on a l'impression de t'entendre parler de la privatisation du service public, en fait. Quoi.
Oui, mais de manière pernicieuse, justement. Sans avoir des écoles privées. Ce serait des écoles publiques, mais avec une possibilité de subvention privée.
Et quand tu parles de travailler de plus en plus jeune, on entendait des projets du gouvernement de vouloir développer l'apprentissage au collège de plus en plus jeune. On entendait même vaguement parler du niveau 5e. C'est-à-dire quand des élèves ont 11 ou 12 ans, ça paraît complètement fou de vouloir les mettre dans le monde du travail alors qu'ils ont tout leur cerveau à construire et s'ils veulent pouvoir être un minimum émancipés.
Oui, mais je pense que ça va aussi avec ce que Blanquer a mis en place, c'est-à-dire, j'utilise ces mots, hein, c'est la culture de l'évaluation. Faut savoir que Blanquer, il a mis en place les évaluations nationales qui existaient avant. Il y avait des évaluations nationales, mais elles n'étaient pas du tout faites de la même manière. Là, on en a une quasiment à tous les moments de la scolarité du CP au CM1, CM2. Bon, j'exagère, c'est pas encore à tous les niveaux. C'est CP, CE1 et je me rappelle plus pour le cycle 3, je crois qu'il y en a en CM2. Et en sixième, c'est-à-dire que les élèves doivent préparer et les enseignants préparent les élèves à ces évaluations. Hein. C'est des mini-évaluations des grosses évaluations pour les élèves. Hein. C'est pas le bac, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de le rater, mais s'ils ratent, du coup, ben, ils sont considérés comme étant en difficulté. Et ça, c'est quand même assez grave d'habituer des enfants dès le plus jeune âge à être évalués aussi souvent. Ça conditionne aussi beaucoup les enseignants qui se retrouvent à faire bachoter leurs élèves dès le plus jeune âge. Et donc pour rejoindre ce que tu disais, finalement, en fonction de ces évaluations, en fonction de ces habitudes qu'on a de tout le temps avoir un regard sur ce qu'on fait en devant le noter, en devant lui donner une appréciation positive ou négative, de fait, quand on arrive à 15 ans, en fait, on va choisir en fonction de l'image qu'on nous a donnée de nous. Et cette image-là, elle est chiffrée. C'est des graphismes, c'est des appréciations de type noté avec des pourcentages, et on devient finalement une donnée dans cette société. Et là, c'est la mort du sujet, hein, au sens psychologique du terme. C'est-à-dire qu'on n'a plus, on n'a plus de construction d'identité qui nous permette vraiment de pouvoir faire des choix, puisqu'on se retrouve à être un pourcentage qui va être orienté par les adultes pour faire un métier. Et la société de demain, quand on voit tout ça, ça donne pas vraiment envie. Hein. Ça fait plutôt peur. Hein.
Oui, ça revient finalement à être réduit à un livret de compétences.
Exactement.
Ou un livret scolaire unique, comme au collège ou éventuellement au lycée. Et dans lequel, finalement, on peut choisir les gens sur leurs compétences en disant, tiens, je vais prendre celui-là plutôt que celui-là. Indépendamment de la personne, on sélectionne des compétences.
Et donc, je vais conclure aussi sur un dernier point, c'est-à-dire que actuellement, on se rend compte que les enseignants sont épuisés. On n'a pas vraiment parlé des conditions matérielles des enseignants, mais quand on voit les raisons pour lesquelles on devient enseignant, en tout cas, nous, autour de cette table, et quand on voit ce qui est devenu l'école et ce qu'elle est en train de devenir, on se rend compte qu'au-delà des conditions matérielles, il y a aussi des conditions essentielles à notre métier qui sont complètement remises en question. Et donc, du coup, on se retrouve à exercer un métier que nous-mêmes, on a envie de rejeter, puisque c'est pas pour ça qu'on est devenu prof. C'est pas pour évaluer et orienter les élèves malgré leurs possibilités et leurs choix. D'accord, on va vous laisser, donc voilà, merci de nous avoir écoutés. La prochaine émission, ce sera le 30 avril, donc la prochaine émission micro-ondes. Merci de nous avoir écoutés, à une prochaine, et à bientôt sur Radio Libertaire.
Mamwe chukunda kwenji jindole Ndole jilole Ndole libeji banye Mbombo ele ya ye Mbombo ele Mbombo ele ya ye Yaya mbombo wogule kikumunga mba mwaje mamwe 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 chukunda Mamwe mamwe Mamwe, 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 mamw